c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatales,
tatouées,
douces,
savantes,
de l'être,
faciles,
fidèles,
bonnes femmes,
au foyer,
modernes,
citoyennes,
de caractère,
combattantes.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elles, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Eh bien voilà, une nouvelle émission sur la chevelure des femmes.
De ces dames.
Voilà, c'est pas rien quand même, hein, les cheveux. Hein.
Oui.
Parce que comment on les coiffe, un épi, ça va de travers, la frange est moche. On n'est jamais
content. Ils sont lisses, on voudrait qu'ils soient frisés. Ils sont frisés, on voudrait qu'ils soient lisses.
Ah, c'est pas facile, facile.
Ah, hein. C'est dur, les cheveux. Ils sont bruns, on les met en blond.
Voilà.
Enfin, etc., etc.
Alors... voilà. Il faut savoir que dans presque toutes les civilisations, hein, les cheveux ont quand même une importance particulière.
Ouais.
Je vais baisser un peu la musique là. Alors, ils ont souvent un rapport donc avec, bien sûr, l'intimité, la séduction, hein, parce que si on se trouve moche avec ses cheveux tout traviole, bah voilà, on va pas séduire comme ça. La pudeur, la sexualité, mais aussi dans la relation à l'autre, dans le fait de peigner, brosser, épouiller, couper. Comme autant de marques d'affection.
Ah, alors j'ai dû beaucoup aimer mes enfants. Et... Entre épouiller et couper.
Voilà, toi, t'es une artiste des ciseaux, là.
Tout à fait. Enfin, j'étais, parce que j'ai abandonné, là. Ça y est, c'est fini. Je ne suis plus coiffeuse.
Bah, ils sont grands, maintenant.
Oui.
Ils ont plus besoin de leur maman.
Exactement. Pas pour ça, en tout cas. Puis moi, j'ai pris ma retraite de coiffeuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En Égypte, tiens.
On commence au début.
Alors, en Égypte, les coiffures féminines étaient très variées. Hein. Finalement, ça pouvait être des tresses, des queues de cheval, des longueurs lisses ou ondulées. Enfin, voilà. En tout cas, les riches égyptiennes rivalisaient d'élégance. Elles ornaient leurs chevelures de perles, de peignes précieux, de fleurs, de baies. Et quant aux servantes et aux esclaves, elles nouaient leurs cheveux sur la nuque ou réalisaient des tresses qu'elles ramenaient sur le côté de la tresse. Donc c'était quand même assez codifié, en fait.
Voilà, bah oui,
parce que c'est ça aussi qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de codes aussi autour des...
Suivant, le rang social que l'on a.
Le rang social, l'époque, la religion, enfin, etc. Alors, donc, en Égypte, il y avait beaucoup de perruques aussi. Alors, en cheveux naturels ou alors en laine teinte... quand on avait moins de sous.
Voilà.
Alors, en Grèce. En Grèce, tout le monde se frisait ses cheveux. Il y a des Grecs qui avaient des cheveux frisés naturellement, mais sinon, c'était une marque de différence par rapport au peuple migrateur du Nord. Les femmes des classes aisées avaient souvent des coiffures longues et compliquées à réaliser, à base de boucles, de multiples tresses. Et plus c'était complexe, plus on était de haut rang. C'est-à-dire que de toute façon, plus c'est complexe, moins on peut le faire tout seul. Voilà, donc il faut avoir des coiffeuses autour de soi. Hein. Donc c'était une marque sociale, la complexité de la coiffure. Et on essayait d'éclaircir les cheveux aussi avec du jus de citron, du bicarbonate de sodium. On pouvait même... saupoudré de poudre d'or. Le raffinement total, le roi Midas. Enfin, voilà. Alors, sous l'Empire romain, les chevelures des impératrices sont extrêmement longues, très très longues, et travaillées avec une cosmétique très élaborée. Et par exemple, Théodora, la femme de l'empereur Justinien, portait un nombre de bijoux tels sur la tête qu'on ne voyait plus ses cheveux. Donc, ça devait être lourd, en fait.
Oui.
Hein, ça fallait vraiment en vouloir.
Il va avoir mal au cervical.
Ouais, c'est ça. la coiffure des dames, c'était donc vraiment un marqueur quoi, social. Mmh. Hein, et, les cheveux étaient bouclés sous l'Empire romain, portés sur les épaules ou tressés, remontés en chignon. Il y avait des rajouts pour ajouter du volume, de la longueur. Enfin voilà, des tas d'agrémentations. C'était très très complexe. Et évidemment, il fallait une ou plusieurs femmes de chambre pour faire ces magnifiques coiffures. Alors, celles qui n'avaient pas de femmes de chambre, les classes plus moyennes, disons, pouvaient réserver les services d'un coiffeur à domicile pour les apparitions publiques importantes. Et il y avait aussi une autre coutume qui était de porter le pala, un long châle qui recouvrait tout le corps, la tête jusqu'aux pieds, quoi. Et ça pouvait être porté par des femmes mariées pour protéger leurs cheveux de la vue des hommes.
Voilà. Alors ça, c'est le problème. Il ne faut pas que dans beaucoup de religions, il ne faut pas qu'on voit les cheveux des femmes.
Parce parce que c'est trop sexy.
Voilà.
Quelle horreur.
Alors, si vous avez vu des péplums, eh ben, vous avez pu voir toutes ces sortes de coiffures extravagantes là, que pouvaient porter les Romaines, les Grecs, tout ça.
Autant jadis.
Voilà. Alors, je vous propose une première chanson, voilà, qui a été chantée par Lio en 1986 et qui s'appelle « Les brunes ne comptent pas pour des prunes ». Alors, les brunes. Alors autrefois, en fait, voler les cheveux d'autrui, hein, bien permettait de faire des filtres d'amour et d'envoûter. Voilà, alors des gages de, ou promesses d'amour ont souvent été basées sur des mèches de cheveux. Hein, voilà, qu'il fallait cheveux, donc c'est cachet perdu ou tombé pour empêcher que quelqu'un de malveillant puisse les utiliser pour jeter un sort. Alors, quant aux cheveux, par exemple, de réponse, dans le conte des frères Grimm, ils sont aussi des pouvoirs de guérison. Ah. Alors, c'est vrai que, dans, par exemple, quand les premiers cheveux des enfants, hein, quand la première fois qu'on leur coupait les cheveux, des fois, on gardait
une petite mèche.
Une mèche de cheveux. Alors, je suppose que ça se fait plus, ça. Enfin, je sais pas, peut-être. Oui. Hein. Avec les dents de lait.
Oui, oui.
Enfin, moi, je m'étais fait engueuler parce que j'avais mis toutes les dents de lait dans le même sachet.
C'est malin.
Bon, enfin, on ne peut pas être au parfaite. Top tout le temps.
Hein, ah oui, non, non. C'est les choses plus importantes.
Alors, en Inde, elles, les femmes portaient souvent leurs cheveux sur les épaules et les retenaient par des diadèmes et des bandeaux incrustés de pierres précieuses. Et lorsqu'elles les attachaient, c'était en chignon bas sur la nuque. Et au XIe siècle, par exemple, les hommes et les femmes de la communauté musulmane indienne couvraient leurs cheveux en public avec un turban ou un voile. Et quant aux femmes chinoises, elles portaient des cheveux extrêmement longs, agrémentés de tresses de différents types, de sorte que tout le monde pouvait savoir si la femme était célibataire ou mariée, rien qu'en regardant sa coiffure. Et à Wonglo, une minuscule ville des hauts plateaux chinois, où les femmes arborent fièrement des mètres et des mètres de cheveux soigneusement bouclés, la pratique consistant à ne jamais couper les cheveux après le mariage a survécu. Ouais, non, ça doit être pesé lourd aussi.
Ouais. Oui, oui.
Alors, ils ont les cheveux fins. Bon, donc c'est peut-être un peu... Bon. Enfin.
Bah, c'est surtout de l'entretien.
Beaucoup d'entretien, on passe du temps.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, par exemple, au début du Moyen-Âge, il y a eu une autre... Les rois et les reines mérovingiens portaient des cheveux longs et lâchés. Donc, c'était un autre concept, quoi. Il n'y avait pas toutes ces... Voilà. Des longues tresses agrémentées de rubans étaient aussi très à la mode, mais on pouvait très bien avoir ses cheveux lâchés. Donc, il y a vraiment des périodes aussi. Hein. Et au XIe siècle, tu parlais du XIe siècle, c'est vrai que, par chez nous, en tout cas, c'est une période très influencée par le catholicisme. Les femmes portaient un voile qui leur couvrait le cou, les oreilles, ainsi qu'une partie des cheveux. Il y avait le touré aussi, un petit cylindre qui entoure la tête et qui était très populaire, comme le hennin, le chapeau pointu, ou le hennin à cordes.
Ah, oh, voilà. Il y a deux pointes.
Oui, il y a deux pointes, voilà. C'est très différent. Enfin, tout ça, c'était très subtil. Alors, c'est vrai que... Il y a un texte de Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qui parle un petit peu des coiffures. Il parle des coiffures de la femme et aussi de l'homme, d'ailleurs. Il disait que la femme... ce qu'il dit, Saint Paul, c'est que quand la femme prie ou prophétise, il faut qu'elle soit couverte. C'est-à-dire que elle doit cacher ses cheveux au moment où elle prie ou elle prophétise. Bon, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes qui prophétisaient à l'époque, mais voilà. Voilà. Les exégètes ont pensé que cette marque d'autorité pouvait être un voile, puisque beaucoup de femmes dans l'Antiquité portaient un voile sur leurs cheveux. Alors, c'est vrai aussi que c'était une distinction, en fait, entre les femmes libres et les femmes esclaves. Donc, c'est tout un contexte. Alors, c'est vrai que Saint Paul a été très... Enfin, est aussi critiqué quand il évoque ce genre de choses. Mais je crois qu'il faut le lire entièrement pour mieux comprendre. Et puis, c'est à intégrer à un contexte, effectivement. Bon, de nos jours, les nonnes portent encore un voile. Alors, blanc quand elles sont en apprentissage. Et puis, bleu clair, ou je ne sais plus, bleu clair, oui. Enfin, oui, un bleu.
Oui, on en voit avec des...
Quand elles sont vraiment nonnes. Dans la religion musulmane, c'est pas pareil, il y a une interprétation des textes qui vise à faire que les femmes doivent porter le voile, sachant que, mine de rien, il n'y a pas tant d'évocations dans les textes de cette question de...
Voilà, c'est plutôt l'interprétation.
C'est toujours question d'interprétation, tout ça, et de coutumes de l'époque aussi, je crois. Dans la religion juive, il y a certaines branches de la religion où, effectivement, les femmes se rasent la tête et portent une sorte de perruque chez elles.
Bon, les cheveux, ça...
C'est quand même c'est une aventure. Même, hein. Mais pour les hommes aussi, hein, les hommes dans la religion juive doivent se couvrir un petit peu la tête quand ils vont... Enfin, voilà. Bon, alors, en tout cas, à partir du XVIe siècle, les voiles tombent, peu à peu, pour laisser place à des coiffes de plus en plus réduites qui montrent les cheveux... Et donc, ça laisse place à une grande mode concernant les coiffures. Peu à peu, les femmes montrent leurs cheveux, mais cependant, on les attache si on est en public.
Ah oui, quand même, hein, pas trop de liberté.
Pas trop de liberté. D'ailleurs, je tiens à souligner que ça perdurait très longtemps, puisque en 68-69, je ne sais plus si c'était début ou fin d'année scolaire, je me souviens de ma prof de maths, que je ne nommerai pas ici, paix à son âme certainement, qui m'avait demandé de venir à la fin du cours, parce que après 68, j'avais raccourci mes jupes plissées, et je ne m'attachais plus les cheveux en cours. Donc ça l'avait choquée. Bon, voilà, donc les cheveux attachés et détachés, c'est aussi... je sais pas, okay. Détaché, c'est la liberté, ou j'en sais rien, il y a un truc qui va pas, quoi. Alors, la Renaissance, c'est une période plutôt faste, enfin, beaucoup d'inventions de luxe autour des cheveux, en tout cas dans les milieux favorisés, dirons-nous. Des onguents du monde entier font leur entrée dans les cours en Europe, notamment en Italie, des onguents qui promettent des cheveux merveilleux. On utilise des cheveux du Nord, d'Europe du Nord, pour faire des perruques blondes. Le blond, souvent, au Moyen-Âge, était considéré comme un symbole de pureté. Mmh. Bon. C'est la teinte qui devient populaire à cette époque-là. Et pour l'obtenir, donc, des tas de procédés de décoloration, des potions diverses à base de safran, de salpêtre ou de lupin. Des potions pas forcément bonnes pour la survie des cheveux, hein, ça les abîme plus qu'autre chose. Enfin bon.
Et on peut toujours faire des tests, mais enfin, voilà. faut rester prudent.
Faut rester prudent en matière de cheveux.
Alors, je vous propose une autre petite chanson de Lady Gaga. Écrite en 2011, qui s'appelle Hair. Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm hot shot, mama cut my hair at night. In the morning, I'm short of my identity. I scream, mom and dad, why can't I be who I wanna be? To be. I just wanna be myself, and I want you to love me for who I am. Bon, alors, on va passer à... Donc, en Europe, la vraie chevelure a été parfois recouverte de perruques sophistiquées. Et comme c'était le cas, par exemple, à la cour de Louis XIV. Hein. Et entre le XVIIe et le XIXe siècle, on assiste à un regain d'intérêt pour les coiffures donc, dans toute l'Europe. Et les perruques pour les nobles deviennent très populaires en France, pratiquement du jour au lendemain. Et elles doivent être non seulement blondes, mais aussi blanches. Donc pareil, hein, vous aurez vu ça dans les films d'époque.
Tout à fait.
Donc Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, une célébrité hein, de l'époque, était connue de toutes les cours d'Europe pour ses dépenses extravagantes en perruques. Et quelques décennies plus tard, la première dame autrichienne, Élisabeth de Bavière, épouse de l'empereur François-Joseph Ier, mère de l'archiduc Rodolphe d'Autriche, hein, celui qui s'est suicidé à Meyerling, et cousine du roi Louis II de Bavière, plus connue sous le nom de Sissi, elle s'opposait pour la première fois à la dame de la femme de France parce qu'elle aussi avait une chevelure extraordinaire. Alors, par contre, elle mettait pas du tout de perruque. Hein. Et d'ailleurs, l'impératrice méprisait le vieillissement et refusait d'être montrée au-delà d'un certain âge afin d'être considérée comme éternellement jeune.
Oui,
alors... Maintenant, on peut la voir hein, sur de nombreuses photos, exhibant fièrement sa belle chevelure brune, souvent ornée de fleurs, qui lui tombe jusqu'aux chevilles. Et il semble qu'elle ait utilisé une formule spéciale à base d'œufs et de brandy pour appliquer des compresses sur sa précieuse chevelure afin de la maintenir en bon état. Alors, il y a plein de films et des séries télé aussi là, sur Netflix là, qui sont faites sur cette Sissi impératrice.
Ça devait être lourd.
Et oui, parce que ses longs cheveux et ondulés et au burn pèsent près de 5 kilos.
Ouais.
Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour peser exactement le poids de la chevelure, mais bon.
Bah, ouais, si. S'il y en a eu.
De mettre que les cheveux sur la balance.
Enfin, en tout cas, c'est la légende dit.
Oui. Bah, puis on sait que c'est lourd. Hein,
tout oui, de toute façon, voilà.
Alors, donc le poids en fait de ses cheveux lui donne des migraines et des maux de dos. Et elle ne peut pas se tenir bien droite, ce qui fait que sur certains tableaux, elle se penche hein, sans en avoir l'air. Et donc pour la coiffer, elle ne fait confiance qu'à Fanny Angerer, qui consacre 3 heures par jour à cette tâche. Et dès lors qu'un cheveu est mort ou reste sur la brosse, Fanny Angerer doit le montrer à Sissi. Et cette dernière déteste au plus haut point perdre ses cheveux. Il doit donc y en avoir le moins possible. Et donc, faut savoir que dans ses cheveux, Sissi apprécie de porter des bijoux en diamant en forme d'étoile. Et donc, elle possède 2 lots de 27 étoiles.
Très bien.
De diamants. Hein, voilà. T'as pas ça, toi ?
Non.
Bah.
Non, j'ai pas ça. Bon, on peut continuer à l'époque victorienne, donc contemporaine à celle de Sissi, hein, donc on est encore au 19e siècle. Les cheveux d'une femme étaient considérés comme une partie très importante aussi de son apparence, et les femmes étaient censées laisser leurs cheveux très très longs. Leur chevelure était leur couronne de gloire, entre guillemets. Les femmes ne détachaient leurs cheveux que le soir à la maison. Et seuls leurs maris ou leurs domestiques les voyaient ainsi. En public, une femme respectable devait avoir les cheveux attachés.
Voilà.
Seules les jeunes filles pouvaient garder, les très jeunes filles pouvaient garder leurs cheveux détachés jusqu'à 15-16 ans. Et les femmes représentées avec des cheveux lâchés étaient souvent des actrices, donc considérées quand même à l'époque comme de mauvaise vie,
hein, voilà.
Ou des modèles utilisés pour évoquer la beauté et la romance. Voilà, les longs cheveux étaient le privilège des nobles à une période où finalement le peuple commençait à se couper les cheveux. Pour les femmes plus pauvres, il était difficile d'entretenir de longs cheveux à cause des maladies, des conditions de vie précaires.
Les poux, voilà.
Il y avait les poux, etc. Et puis l'autre pan, c'est que si on coupait ses cheveux longs, on pouvait les vendre pour gagner un peu d'argent. C'est illustré par le film Les 4 filles du docteur Marsh, où on voit Joe couper ses cheveux afin que sa maman puisse payer son voyage pour aller voir son papa hospitalisé et blessé pendant la guerre de sécession.
Quel dévouement.
C'est beau, c'est beau, c'est beau. En même temps, elle est un peu garçon manqué, Joe, aussi, oui, je me trouve. Donc, je pense que ça l'arrange bien, quelque part, se couper les cheveux.
Voilà. Oui, mais en même temps, à l'époque, ça, c'était
ben pour oui. une fille, c'était mais pas... Mais là, elle a un motif pour se libérer de sa chevelure. Je pense que c'est... Bon, enfin, c'est très altruiste, quand même. On va pas faire d'analyse sauvage. Bon, sous le Second Empire, s'établit l'usage de laisser les cheveux qui flottent chez les jeunes filles. Et... très libre encore chez les femmes, usage qui pourrait être venu d'Angleterre. Vers 1855, on apprend des Anglaises à ne plus se serrer les cheveux et à renoncer aux pommades grasses à base de moelle de bœuf et d'huile d'amande. Ça devait être coquet.
Ouais. Je ne sais pas si ça sentait très bon. Enfin,
plus ou moins parfumé, ça mettait un peu de parfum.
La moelle de bœuf, ça ne doit pas être terrible quand même.
Enfin, ça donnait du lustre.
Sans doute.
Un lustre un peu malpropre, dirons-nous, mais voilà. Ça permet de dompter les cheveux, en fait. Maintenant, on a du gel, si on veut. Mais à l'époque, on mettait de la moelle de bœuf et de l'huile d'amande. Miam. Et puis, ça permettait d'avoir les cheveux plus lisses.
Voilà.
Et c'était plus tendance, on va dire.
Alors, est-ce que vous connaissez Martha Matilda Harper ? Eh bien, en 1888, à 31 ans, cette ancienne servante canadienne ouvrit le premier salon de coiffure moderne. C'est une entrepreneuse talentueuse et écolo avant l'heure. Elle lança sa propre gamme de produits naturels et ouvrit 500 boutiques à travers le monde et inventa le concept de la franchise. Voilà, une vraie success story à l'époque, qui est maintenant d'ailleurs tombée dans l'oubli.
Oui,
alors, c'est vrai. Elle va ouvrir son premier salon de coiffure à Rochester et elle propose donc une activité révolutionnaire qui est de coiffer les femmes dans une boutique. Alors, il existait des barbiers pour les hommes, mais coiffer les femmes dans un endroit public, ça
restait à faire dans l'intimité du foyer.
Voilà. Alors, bon... Donc, bon, écoute, je vais pas vous raconter toute sa vie, mais parce qu'on va pas avoir le temps. voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, elle, comme la fameuse réponse, ses cheveux touchaient le plancher. Mais elle n'a pas attendu qu'un prince vienne la sauver, parce que du coup, elle a ouvert elle-même.
Ouais, elle s'est débrouillée tranquillement.
Elle s'est débrouillée. Voilà. Alors. Donc elle décède en 1950, un mois après son 83e anniversaire. 93e, oui, pardon. Je ne sais plus lire les chiffres.
C'est pas la même chose.
Mais quand même, c'est elle qui a inventé la chaise à shampoing inclinable qu'on voit toujours maintenant dans les salons de coiffure.
Hein, ouais.
Voilà. Donc... Alors, on va vous proposer là. Alors, si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est un film qui est très sympa. Avec, en français, c'est Coup de peigne. En anglais, c'est Blow Dry. C'est un film de Paddy Bresnahan. Je vais vous le passer tout de suite. Et puis, c'est un film avec Alan Rickman, Bill Nighy. Et puis, c'est ces deux coiffeurs, en fait, en Angleterre. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça existe en France aussi. Hein. En tout cas, il y a des grandes réunions où chacun doit coiffer quelqu'un. Et donc, c'est le meilleur qui gagne, quoi. Voilà. Donc, le film est assez sympa. Et essayez de le voir. C'est un film de 2001.
Très bien.
All the things you
Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les cheveux? Ah bah tiens, on va parler un peu du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale. La folie, les années folles arrivent. On jette les corsets, les tournures, les multiples jupons. Les femmes les plus émancipées se coupent les cheveux à la garçonne, comme Louise Brooke, la célèbre actrice américaine de l'époque. Mais n'oublions pas, durant la Seconde Guerre mondiale, des millions de victimes déportées, juives, tziganes, homosexuelles, en opposition avec le Reich, tondues dans les camps de concentration. Et en 1944, l'épisode, les actes pas très glorieux du tout, pas glorieux du tout, de l'épuration, et les femmes qui étaient soupçonnées ou qui avaient eu des liens avec des Allemands, qui ont été tondues sur la place publique, voire nues, enfin bon. Alors c'est vrai aussi que je pense que il y avait une double raison à l'attente dans les camps, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté où effectivement on prend possession de quelque chose, mais il y avait aussi des questions d'hygiène autour des poux et tout ça, et je pense que tout le monde avait, enfin les militaires avaient les cheveux très courts aussi, enfin voilà. L'épuration, il y a une célèbre photo de Robert Capa, le photographe de guerre, qui a fait sa fameuse photo, la tondue de Chartres. C'est une femme, Simone Toussaint, qui avait 23 ans, qui a eu un bébé de 3 mois dans les bras. C'est une photo qui a été prise en août 1944 et... Elle a le crâne rasé parce que voilà, il semble qu'elle ait eu un enfant avec un Allemand. Les hommes qui avaient collaboré pouvaient être abattus.
Les femmes préféraient les humilier et on ne les tuait pas.
Voilà. il y a eu des procès aussi quand même un petit peu après de certains. Bon, en France, furent environ 20 000 femmes qui furent soumises à ce rituel barbare. C'est quand même énorme. Ça reposait sur... Enfin, c'était la vindicte populaire, quoi.
Oui,
c'était,
c'est ça. Puis
bon, ça reposait sur quelque chose ou sur rien. Et il n'y a pas eu qu'en France. Hein. Au Danemark, en Norvège, c'était pareil. Hein. On a tondu les femmes après la guerre. Des femmes après la guerre. Alors, la chevelure féminine a toujours été assimilée à la féminité. Et longtemps, c'était. Il y a eu une période, en tout cas, où c'était vraiment la seule identité de la femme. Si on la privait de ses cheveux, finalement, on la dépouillait de son identité. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on tondait les femmes adultères. À l'époque de la chasse aux sorcières, on leur coupait les cheveux, mais on rasait le pubis aussi. C'était vraiment très humiliant pour elles, quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que le cheveu génère beaucoup de choses.
Voilà, c'est ça, beaucoup de suspicions et d'envie et de... Alors bon, on va passer quand même à des choses plus plaisantes. Par exemple, à l'âge d'or hollywoodien, avec ses stéréotypes féminins. Alors on se rappelle tous de la blonde fatale et impénétrable, ouais, comme Véronique Alec, la blonde exubérante et sensuelle Jean Harlow, la blonde platine hein, Marilyn Monroe, la rousse flamboyante et explosive que Rita Hayworth, la brune froide et calculatrice comme Joan Crawford. Alors, et vous préférez la blonde Marilyn ou la brune Jane Russell? Eh bien, Marilyn, quant à elle préfère les diamants dans le film... Les hommes préfèrent les blondes. Alors, on va écouter Marilyn.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best best friend.
Voilà, il n'y a pas que l'impératrice ici qui aime les diamants.
Hein. Ouais.
Alors, bien sûr, un nombre de femmes vont évidemment se coiffer hein, comme leur actrice préférée. Et ce n'est que dans les années 50 que les femmes commencent réellement à sortir avec les cheveux défaits. Et là, c'est une véritable révolution. Alors en France, hein, on a Brigitte Bardot, par exemple, avec ses cheveux relevés et tout ébouriffé. En 1950, c'est l'âge d'or, hein, des coupes bouffantes et des permanentes. Mais la mode évolue vite et quelques années plus tard, c'est la mode des cheveux longs et raides, des mini-jupes, style Françoise Hardy. Alors les cheveux longs de la période hippie, les fleurs, peace and love, ont été le symbole d'une rébellion contre l'ordre établi. Et les coiffures vont être utilisées hein, comme forme de protestation contre le conformisme. Mmh. Hein, bah, on se rappelle du film Air, par exemple, hein, une adaptation cinématographique d'une comédie musicale qui est créée en 67. Et donc là, je vous propose d'écouter bah, un petit montage de chansons que j'ai récupérées de cette époque des années 60. Ah,
ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît.
Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question que j'entends toujours, toujours et partout. Que ce soit dans la rue ou dans le métro, est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question. Mais
mais regardez-vous, coiffé tristement, habillé comme au temps de vos grands-parents.
Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon.
Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés.
On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude, sa voix. Si quelque part il y a l'espoir d'être un jour des enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, son secret.
Bon, une période où les cheveux avaient beaucoup d'importance, voilà, hein. Puisqu'on en parlait même dans les chansons.
Et alors, c'était plus par rapport aux garçons, finalement, qui avaient les cheveux longs.
Ah bah oui, voilà. Ça a été quand même quelque chose, ça, les cheveux longs chez les garçons. Ça a beaucoup fait parler, à l'époque. Alors, dans les années 60, parlons d'Angela Davis, activiste qui a commencé à se libérer de la norme des cheveux lisses, c'est-à-dire conforme un peu à la mode des Blancs, parce qu'elle, elle avait quand même les cheveux crépus et très, enfin, en tout cas très, très frisés. Et elle a vraiment, elle en a fait un symbole, quoi, de sa coiffure, qu'elle arborait fièrement au-dessus de sa tête. C'était un symbole fort de résistance et de fierté identitaire aux États-Unis. Le refus des normes imposées par la société majoritairement blanche. Voilà, donc, comme on a pu le voir à d'autres époques, c'était pas seulement le cheveu, c'était pas seulement des fibres et une question de beauté, mais aussi c'était un élément culturel, quoi. Si on peut retourner un petit peu en arrière, peut-être pour parler de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu une période où la coiffure avait une grande importance. On portait ses cheveux tressés, ornés de perles, de plumes, autres accessoires. C'était une véritable sculpture, ou alors les cheveux étaient lâchés. Mais c'était une façon de dire de qui on était, d'où on venait, de quelle tribu, selon l'aspect de la coiffure, etc. Enfin voilà, ça donnait des renseignements sociaux. Et on était fiers de ses cheveux jusqu'à ce que les Européens débarquent et décident que c'était... considèrent que ses cheveux, c'était plus quelque chose de sauvage. Ça dénotait une certaine animalité, une certaine marque d'infériorité. Et à cette époque-là, il y a beaucoup d'esclaves qui ont eu le crâne rasé.
Mais aussi, toujours pour des questions de pratique.
Pratique, hygiène, etc. C'est vrai que, bon, les cheveux crépus, c'est complexe à entretenir quand ils sont très crépus, oui. Qu'ils s'en mêlent beaucoup. Et Annie Malone, et puis Madame Walker... ces deux femmes-là ont trouvé une lotion capillaire miracle, le Wonderful Hell Grower, qui fit la fortune de cette dernière au début du XXe siècle. Et ça a bien arrangé pour entretenir les coiffures afro-américaines. Voilà. Bon, petit aparté.
Et donc, Solange Knowles, donc qui est la sœur de Beyoncé, a donc écrit aussi une chanson sur le fait qu'il y a beaucoup de blancs, enfin d'européens, tout ça, qui aiment bien toucher les cheveux des enfants crépus parce que je sais pas, ils doivent trouver ça. Oui. Mignon, enfin je sais pas.
Ben moi j'ai le souvenir d'un de mes fils qui était blond petit et les cheveux en brosse et on est allé au Maroc, tout le monde lui caressait la tête aussi.
Voilà.
Hein.
C'est ça. Donc
c'est le l'inhabituel.
Bah oui c'est ça ouais. qui attire quoi. Ouais. Voilà. Donc elle a écrit une chanson qui s'appelle Don't Touch My Hair.
Don't touch my hair. It's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. You know this here is my shit. Roll the ride. But this here is mine. You know this here is my shit. Wrote the ride, I gave it time. But this here is mine.
What you say, what you say to me? What you say to me? What you say to me? What you say?
Touch my pride. They say the glory is all mine. Don't test my mouth. They say the truth is my sound. They don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant. To go where we've meant to know. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine.
Alors, on va retrouver dans les années 70-80, eh bien, le style punk, par exemple. Hein. Alors, bien sûr, hein, c'est toujours fondé sur l'anticonformisme, l'anti-autoritarisme, l'anticorporatisme, l'anticonsumérisme, enfin, anti-tout, quoi, voilà. Et l'action directe aussi. Alors, on va surtout parler des... on va pas parler de la mode vestimentaire, mais surtout comment des coiffures originales, hein, telles que les cheveux colorés, hein, c'est là qu'on devient la mode des cheveux rouges, bleus, jaunes, verts, voilà.
La crête de Didier Vampasse.
Voilà, la crête de Didier Vampasse. Donc, les mohawks à pointe, vous savez, c'était des pointes là, qu'on se faisait sur la tête, comme ça. Enfin, je montre en même temps avec mes mains, mais vous, évidemment, vous ne voyez rien. Mais donc, les pointes Liberty, ça, c'est quand il y avait plusieurs pointes voilà, qui partaient dans tous les sens. Alors, la coiffure mulet, aussi colorée. Alors, vous savez, on se rasait sur les côtés, on essayait une petite crête, et puis on avait une petite queue dans le cou, là. Voilà, très, très jolie. Alors, bien sûr, il y a les tatouages, hein, les bijoux, les piercings, etc. Et puis, moi, ça m'avait fait penser aussi à la coiffure, je sais pas, d'un vieux film hein, de 1935, là, qui s'appelait La fiancée de Frankenstein, où on voit donc cette fameuse fiancée qui a une chevelure, pareil, tout en hauteur, comme ça, sur la tête, qui fait penser quand même au punk.
Punk et puis, d'avant-garde.
Voilà, c'est ça. Et puis, par exemple, en France, on avait la chanteuse Desireless, hein, qui, dans les années 80, avait un de ses tubes, c'était Voyage, Voyage. Là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Pareil, elle avait les cheveux tout dressés sur la tête, comme ça. Alors, par contre, à l'inverse, il y a des artistes qui choisissent de se raser le crâne. Par exemple, comme Sinead O'Connor, qui avait expliqué à Rolling Stone la raison hein, de ce choix capillaire radical, parce qu'en fait, les dirigeants de son label de l'époque hein, voulaient qu'elle porte des bottes à talons hauts, des jeans serrés, et puis qu'elle se laisse pousser les cheveux et tout ça pour qu'elle soit bien plus féminine, en fait, voilà. Et alors, elle a trouvé que c'était tellement pathétique de leur part qu'en fait, elle a fait tout l'inverse et elle s'est rasée la tête comme ça, il n'y avait plus de discussion possible. Voilà. Et elle déclarait qu'elle avait grandi dans un environnement où il était dangereux d'être une femme et que cette coiffure lui donnait en quelque sorte l'impression d'être plus en sécurité parce qu'elle était moins regardée envieusement. Voilà. Alors, il y a les Britney aussi qui en février 2007, en pleine nuit, t'allais chez le coiffeur pour se raser la tête, voilà. Alors on a pensé que c'était un pétage de plomb, mais bon, pas forcément.
Les paparazzi étaient là quand même.
Voilà, apparemment c'est son agent de presse qui avait prévenu, voilà. Mais bon. Alors après, par exemple, Marie-Christine, qu'est-ce qu'on a dans les années 70 ? La mode gothique.
Ah, la mode gothique, c'était aussi dans les années 90 plutôt. C'était plutôt la liberté, c'était toujours pareil, la liberté individuelle, un maquillage outrancier, des jupes très courtes, des résilles, des menottes, des piercings, un petit peu tout, un peu de crête aussi quelquefois, ou des bracelets à pointe comme les punks, enfin des coiffures exotiques, des coiffures bleues aussi beaucoup, il y a eu
rouge
aussi. Des vernis noirs, des rouges à lèvres noires quasiment, enfin voilà. Et puis ça pouvait être le crâne rasé ou en partie rasé, enfin une espèce de sculpture sur crâne. Alors, il y avait parfois des résultats assez sympas, enfin, visuellement, d'autres peut-être moins réussis, on va dire. Voilà.
Et puis, ça ne va pas forcément à tout le monde. Quoi.
Et puis, finalement, je ne sais pas si ça a duré très longtemps, cette mode-là. Je ne pense pas.
Bah, on en voit toujours quand même quelques-uns. Bon, enfin, voilà,
quelquefois, on croise un punk.
Voilà, c'est ça. Voilà,
les jeunes actuellement, dans l'ensemble, ils sont pas très gothiques. Hein, enfin bon.
Donc, alors qu'on a aussi, par exemple, les dreadlocks. Alors, on peut retracer cette origine dans différentes cultures à travers le monde. Par exemple, les premières traces remontent à l'Égypte ancienne, où elles étaient portées par des prêtres et des membres de la noblesse. Mais les Rastafari, un mouvement spirituel né en Jamaïque au début du XXe siècle, ont popularisé les dreadlocks, en particulier grâce à Bob Marley. Alors, elles symbolisent pour eux l'engagement spirituel et le rejet des normes sociales. Mais on les retrouve aussi chez les Sadhus en Inde, les Maasai en Afrique de l'Est, et même chez les Vikings dans la culture nordique. Alors, aujourd'hui, hein, les dreadlocks sont devenus un symbole de diversité culturelle et d'expression individuelle, bien que le plus souvent porté par la communauté afro-caribéenne. Les nouvelles générations se sont appropriées ce type de coiffure en la revisitant pour en faire un look qui s'intègre à la vie quotidienne. Alors, c'est vrai que le poids historique hein, des styles capillaires est indéniable et démontre comment les coiffures ont pu être à la fois des symboles de pouvoir, mais aussi d'oppression. Alors, ce qu'on peut peut-être... les nouvelles tendances capillaires annoncent l'acceptation des cheveux au naturel et le rejet des standards traditionnels. Hein. Plus de 40% des jeunes générations, selon une enquête de Statistas, estiment que les cheveux naturels ou non genrés sont une expression authentique de leur identité. Et les cheveux continuent de jouer un rôle central dans l'expression identitaire et culturelle. Ils sont le reflet des courants sociaux, politiques et économiques de notre époque. Alors maintenant, on a le droit d'avoir les cheveux gris.
Oui, voilà, c'est maintenant, exemple, ça devient assez et courant. Blanc, voilà, et puis c'est très branché. Alors bon, il y a beaucoup de battages autour des femmes que célèbres qui gardent leurs cheveux gris. Parfois, on se demande si c'est pas un petit peu bidouillé quand même pour être plus gris ceci ou gris cela. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de liberté capillaire actuellement.
Oui, qu'il y en avait avant.
Puis ça pose moins de questions.
Oui.
Voilà. Alors, il y a des expressions qui sont liées aux cheveux.
On va terminer par quelques expressions.
Alors, tirer par les cheveux, par exemple. Lorsqu'on veut dire que c'est pas très
crédible.
Voilà. Tomber comme un cheveu sur la soupe quand on n'est pas là, c'est mal à propos, quoi. Couper les cheveux en quatre quand on a un souci du détail ou qu'on réfléchit trop. Avoir mal aux cheveux quand on a fait la fête et on a mal à la tête, en fait.
Voilà, c'est ça.
Faire dresser les cheveux sur la tête, c'est faire frémir. Se faire des cheveux blancs ou se faire des cheveux, c'est se faire du souci. S'en falloir d'un cheveu, ça a failli se produire. Il y avait presque rien. Cheveux au vent, l'idée de la liberté.
liberté.
Voilà. Avoir un cheveu sur la langue, c'est zézayer, zozoter. Arriver, venir comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, ça, je l'ai déjà dit.
Et donc, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe.
C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Voilà, puis il y a plein d'autres expressions avec les cheveux.
Oui, on en a juste là mis quelques-unes.
Ouais.
Alors, juste pour terminer, parce que là, on va encore dépasser
un
l'heure.
Un petit mot sur le festival
Il y a un festival dans la petite ville de Breda, aux Pays-Bas, le Roodheringdad, qui est un festival international qui est dédié à la rousseur. En fait, c'est un peintre qui est l'organisateur accidentel de ce festival parce que il avait demandé à des jeunes femmes rousses quoi de venir poser pour lui et donc il pensait qu'il aurait quelques personnes mais finalement il y a 15 filles qui sont venues pour poser pour lui. Et puis, du coup, il se dit, je ne vais pas les renvoyer. Et en fait, il a décidé d'organiser un rassemblement où ces femmes pourraient participer. Et donc, le festival festival était né, et 12 ans plus tard, ce n'était plus qu'un petit rassemblement, mais il y avait plus de 5000 personnes qui sont venues pour ce festival. Et donc maintenant, il y a ce même type de festival à Londres, en Irlande, à Portland, à Chicago, en Géorgie, voilà. Donc, si vous souhaitez aller à un festival de roues et de rousses, eh bien...
Il faut se teindre les cheveux d'abord.
Bah, pas forcément.
Est-ce qu'on est admis quand on est...
Oui, on est admis, d'accord. Même si on n'est pas roux, voilà. Donc, voilà pour l'anecdote. Bon, merci de nous avoir écoutés dans cette 9e émission, je crois que c'est la 9e, voilà. Et puis, passez de bonnes vacances, et puis attachez-vous les cheveux bien faites attention.
J'observe que tu t'es fait des tresses aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Bien que mon père m'avait dit il y a longtemps déjà que c'était plus de mon âge de me faire des tresses. Mais bon. Alors, bonnes vacances à vous et puis à la rentrée. Alors, bonnes vacances.
Au revoir.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites.
De mauvaise vie.
Libérée.
Soumise.
D'esprit.
Fatale.
Tatouée.
Douce.
Savante.
De lettres.
Facile.
Fidèle.
Bonne femme.
Au foyer.
Moderne.
Citoyenne.
De caractère.
Combattante.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elle, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.